réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci d'avoir choisi France Culture, et un autre jour est possible pour commencer cette journée du vendredi 6 mai 2016. Au programme, Michel Pierre. Depuis lundi, il nous raconte le Sahara, depuis les conquêtes coloniales. Aujourd'hui, on va parler du Sahara, aujourd'hui, avec tous les défis écologiques, politiques, stratégiques. Et en deuxième partie, comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Je recevrai donc aux alentours de 6h15 Florence Dupré-Latour pour son album édité chez Dargo, Cruel. C'est le titre de l'album, bien sûr.
Une traversée du Sahara avec Michel Pierre.
Une traversée du Sahara avec Michel Pierre, spécialiste du Sahara, historien, qui a publié récemment aux éditions Belin « Sahara, le grand récit ». C'est le 5e épisode de cette 2e période. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez cette traversée du Sahara de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, vous pouvez retrouver bien sûr les épisodes que nous avons diffusés en février, et vous pouvez aussi podcaster les émissions de cette semaine. Et cette semaine, c'est une traversée du Sahara et du 20e siècle. On arrive aujourd'hui au 21e siècle. Michel Pierre, bonjour.
Bonjour.
On parle du Sahara d'aujourd'hui. Donc un Sahara qui doit affronter tout à la fois l'aridité croissante, les tensions ethniques, et puis surtout le djihadisme.
Oui, un djihadisme qui a quand même évidemment un certain nombre de raisons historiques, qui passe, puisque nous évoquions hier le problème Touareg, qui est...
Et des frontières, d'une manière générale.
Qui est, et des frontières. Et nous évoquions la révolte au Mali de 1963, et ces révoltes de l'espace Touareg ont été récurrentes au Mali et en général et au Niger en particulier. Et ces révoltes ont été un moment aussi aidées en quelque sorte par la Libye. Le colonel Kadhafi retrouvant un certain nombre d'ascendances liées au monde nomade et regardant pour partie ces combattants Touareg d'abord comme d'excellents combattants, il va les utiliser dans d'autres parties du monde et va servir en quelque sorte de base assez bienveillante à ces mouvements de révolte qui vont être plusieurs fois violentes, qui vont à un moment laisser espérer qu'elles s'atténuent, en particulier au Mali en 1992, où vous aurez un pacte avec une cérémonie symbolique à Tombouctou, où un grand bûcher des armes ayant pu servir dans les révoltes précédentes va donner l'impression qu'une paix est possible, mais rien n'y a véritablement fait. La malgouvernance de ces pays, et du Mali en particulier, le non-développement du Nord, la volonté d'indépendance, qui est un mot qui évidemment n'existe pas véritablement au lendemain des indépendances réelles, et la volonté d'indépendance du monde Touareg, qui commence à exister à la fin des années 1980, avec l'idée que le Nord Mali, l'Azawad, dont on a beaucoup parlé, puisse devenir un État indépendant. Alors c'est une idée qui semblait et qui semble toujours relativement farfelue, mais qui va alimenter ce qui a continué à être présent dans les années, pendant toute la fin du XXe siècle, et jusqu'à devenir encore aujourd'hui présente avec un détonateur qui a été la guerre de Libye.
Et vous dites, Michel Pierre, que cette intervention intervention occidentale en Libye, décidée de manière précipitée par les gouvernements français et britanniques, a été l'une des plus grandes erreurs tragiques de ces dernières années.
Oui, je le pense vraiment. Je suis pas le seul à le penser. Hein. J'écoute aussi un certain nombre de chefs d'État africains ou un certain nombre de responsables de l'Union africaine. Hein. Je peux prendre simplement un entretien de juillet 2013 du président tchadien Idriss Déby qui écrit par exemple ou qui dit lors de cet entretien: dès le départ de la guerre de Libye, nous savions que les conséquences seraient dramatiques pour les pays voisins, mais aussi pour la Libye elle-même. Semble totalement extravagant, alors que un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de notes, et puis tout ce que pouvaient en dire des dirigeants de l'Union africaine, que les conséquences de la disparition humiliante de plus de Kadhafi pouvaient avoir être un vrai détonateur, ce qui a été vraiment le cas, parce que la fin, la disparition de Kadhafi et du régime libyen, alors que celui-ci était devenu de plus en plus, avait signé des accords avec l'Italie par exemple pour ce qui est des problèmes de migration, avec les services d'un certain nombre de pays pour, disons, contribuer à ce qui commençait déjà à être une lutte contre le djihadisme, avec y compris des accords avec les Américains, la disparition du gouvernement libyen a laissé place à une situation que l'on connaît, qui était prévisible et qui est absolument épouvantable, entre un éclatement du pays, la présence en Libye, on l'oublie parfois, de 300 à 400 000 migrants qui trouvaient à s'employer en Libye et qui, du fait de la disparition du régime, eh bien, se retrouvent dans des situations qui vont les inciter à passer de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, sur tous les terrains qu'on étudie, le problème d'immigration internationale, celui du djihadisme que vous évoquez, celui de la disparition d'une économie, et nous sommes quand même là de plus en plus proches des côtes européennes. C'est l'intervention la plus absurde qu'on avait vue depuis longtemps.
Alors on comprend que cette chute du dirigeant libyen va provoquer une onde de choc dans tous les pays de la région, mais néanmoins l'islamisme, le djihadisme était installé bien avant la chute, la destitution de Gaddafi, non ?
C'est ce qu'on peut appeler cet islam de combat. Il est pas véritablement présent en termes militaires. D'abord, jamais Gaddafi ne l'aurait permis dans son pays, même si on peut penser que la guerre civile avait déjà commencé à éclater. On ne peut pas savoir jusqu'où serait allée cette guerre civile en Libye, mais en tout cas, il valait mieux ne pas trop s'en mêler. Pour ce qui est du djihadisme, il est présent, par exemple, dans le nord du Mali, mais de manière assez résiduelle. C'est vraiment à partir du moment où vous avez ces mouvements militaires et de révoltes armées de Touareg, venus justement de la Libye, du régime qui s'était effondré, et qui vont traverser et les frontières du Niger et les frontières du Mali avec un équipement militaire qu'ils ont ramené de ce pays. Et ce sera le déclenchement de la révolte, par exemple au Mali, du mouvement national de libération de l'Azawad, qui va prendre le contrôle des villes comme Gao, Tombouctou, Kidal, etc. Mais les Touaregs le font avec des alliés qui vont finalement les exclure de ces villes qui sont des mouvements là qui vont être des mouvements djihadistes comme ACMI, hein, le Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui jusqu'alors avait certes instauré une forme de déstabilisation locale en prenant des otages occidentaux, en tuant, en attaquant. C'est vrai que ce djihadisme est quand même, à partir du moment où le Al-Qaïda ACMI est créé en 2007, vous avez les prémices d'une situation qui, aujourd'hui, a mis le feu à l'ensemble de ce pays, qui était à l'époque encore relativement contenu, mais qui, à partir de la déflagration libyenne, s'est étendu dans les proportions que l'on connaît. Nous sommes, c'est sûr, dans un chaudron du monde. Alors c'est vrai que par exemple, l'opération Serval qui fait que la France va s'impliquer pour empêcher, et à mon avis dans ce cas à juste titre, que Bamako et l'ensemble du Mali ne tombent sous la coupe de ce qui était à l'époque ACMI et un certain nombre d'autres mouvements, fait que certes les 3000 soldats français sont présents, une coalition internationale qui se met en place, l'État du Mali qui tente de se reconstruire avec aussi ce que fait le Niger et le Tchad par rapport à cette menace, mais on est en présence d'un véritable chaudron. C'est pas seulement un chaudron climatique, le Sahara, c'est un chaudron géostratégique et géopolitique.
Le problème des Touaregs n'est toujours pas réglé malgré les accords plus ou moins signés Alger, péniblement signés à Alger. Rien n'est vraiment réglé aujourd'hui, Michel Pierre.
Non, mais on n'est plus. Peut-être que les choses sont moins focalisées qu'elles n'ont pu l'être à un moment dans l'Azawad par rapport au problème Touareg, dont on peut s'imaginer quand même qu'un certain nombre de mesures pourront être prises par rapport au développement du Mali du Nord ou dans d'autres régions du Niger. Le souci aujourd'hui, c'est effectivement cette présence djihadiste de plus en plus importante, et qui est aussi alimentée par le substrat qui est là, qui est vraiment la malgouvernance, qui est ou peut-être une forme d'impossibilité de développer économiquement des pays qui ont un accroissement démographique absolument hallucinant.
Ouais. 5 millions de Maliens en 1960, 15 millions en 2015 et on s'attend à plus de 20 millions en 2020. Et puis un taux d'alphabétisation autour de 30%, une espérance de vie autour de 55 ans. Voilà autant d'éléments qu'on retrouve dans votre livre, Michel Pierre, Sahara, le grand récit aux éditions Belin. Et puis voilà, on a parlé des problèmes politiques, des conséquences aussi de ces problèmes non réglés par les décolonisations, par la colonisation d'abord, pardon, et les décolonisations. Et il reste aussi l'autre facteur, l'autre grand dévoreur, c'est-à-dire la sécheresse, les familles.
Alors, heureusement, il y a peut-être moins de famine qu'à d'autres moments, par exemple dans les années 70, dans cette partie du Sahel. Mais comme vous le dites, si on est sur l'échéance 2020, avec, en comptant simplement le Mali et le Niger, approchant des 50 millions d'habitants, avec une population de plus en plus jeune, sans véritable perspective économique, c'est-à-dire nous sommes quand même, à part les quelques réserves, et elles peuvent être importantes et donner un développement qu'on a vu mais qui est quand même limité avec l'uranium ou avec peut-être des ressources en hydrocarbures qu'on peut trouver ici ou là demain, on est quand même dans une forme presque d'impossibilité. Enfin, il y a quelque chose là qui est en même temps terrifiant. Comment vous pouvez, dans des pays où vous avez des taux de fécondité qui sont nulle part ailleurs équivalents dans le monde, vous êtes quand même dans des régions où vous avez plus de 7 enfants par femme. Donc, c'est quelque chose que l'on a nulle part ailleurs. On est dans des économies où vous avez des circonstances climatiques qui permettent pas les cultures nécessaires à cette population grandissante, mal alphabétisée. Quand vous êtes sur des taux d'alphabétisation autour de 30 à 35% de cette jeunesse qui n'a quasiment aucun espoir, si ce n'est finalement celui de tenter la migration vers le nord ou bien d'être tenté par des idéologies ouvrant des perspectives au moins intellectuelles, sinon économiques. Nous sommes dans quelque chose qui est grave et dont il aurait fallu en son temps s'approcher avec prudence. Et c'est vrai que, en utilisant ce mot de cette partie du monde comme grand dévoreur, même si nous ne sommes plus dans la situation des famines qui ont pu exister, on peut légitimement être inquiet et s'interroger sur une économie, des économies qui sont en plus malgré tout sous perfusion pour éviter des catastrophes encore plus grandes. Et il faudra quand même un temps sans doute assez long pour arriver à des solutions qu'on a du mal à dégager.
Et alors, comment vous imaginez le Sahara de demain ? Est-ce que on peut parler d'un Sahara heureux ? Est-ce que ça a déjà existé, d'ailleurs, une période heureuse du Sahara ?
Ou au
Sahara,
oui. Oui, nous l'avions un peu évoqué au moment des temps néolithiques. Aujourd'hui, c'est vrai avec ce
ça, c'est beaucoup plus l'imaginaire qui nous a poussé.
C'est plus l'imaginaire, et c'est vrai que on revient toujours sur les problèmes démographiques ou même aux phénomènes urbains. Quand vous imaginez que Nouakchott est aujourd'hui une ville de près d'un million d'habitants, alors qu'elle a été conçue, imaginée, tracée au moment de l'indépendance pour au maximum 200 000 habitants. Personne n'imaginait en 1960, au moment de l'indépendance de la Mauritanie, que Nouakchott puisse un jour dépasser 200 000 habitants. On approche aujourd'hui du million d'habitants. Donc c'est vrai qu'on imagine difficilement un avenir heureux. Cela dit, il faut toujours faire confiance malgré tout à l'homme, à son imagination, à sa capacité de trouver des ressources, même dans des conditions difficiles, pour peu que la communauté internationale soit présente. Et puis quand même, on peut faire confiance à l'Afrique, justement, dans ce domaine d'une part de la survie, d'autre part de la vie, et de construire quand même un avenir dont on peut espérer qu'il soit demain, pas seulement limité à la migration vers le nord ou à la migration dans les esprits vers l'Orient où habite.
Merci beaucoup, Michel Pierre. Désormais, l'intégralité de cette série est disponible à la réécoute via l'écoute en ligne ou le podcast en passant par franceculture.fr. Et à la page de l'émission Notre Jour est possible, vous retrouverez bien sûr la bibliographie de Michel Pierre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour.
Bonjour Florence Dupré-Latour.
Bonjour cher ami.
Cruel, 2LE à la fin. Cruel, édité chez Dargaud, c'est le premier volume d'un triptyque qui s'annonce une autobiographie, mais peut-être avec l'enfance, de la petite enfance à l'adolescence qui est visée. Et dans ce premier volume, donc, vous racontez vos histoires avec les animaux. Vous avez été cruel avec les animaux, comme tous les enfants. comme Sophie, des malheurs de Sophie avec les petits poissons rouges. Mais vous, vous allez encore plus loin. Vous racontez tout, même l'inavouable.
Oui, tout à fait. J'ai voulu parler dans cette première approche de l'enfance, de mon rapport aux animaux, qui n'a pas toujours été cruel, mais qui l'a été souvent. Et vous revenez sur les malheurs de Sophie, c'est assez juste. C'est vrai que l'épisode des petits poissons est assez signifiant, même si dans les malheurs de Sophie, en tout cas, ce qui est marquant, c'est le rapport à la punition. Parce qu'en tant que chrétienne, c'est quelque chose qui me parle évidemment. Hein, le rapport à la punition dans les malheurs de Sophie, en tout cas. Est totalement évacué dans les petites histoires que je raconte, puisque souvent les parents sont loin ces histoires qui tournent autour de mon rapport aux animaux. Le regard des parents est presque absent, quasiment.
Il est absent, mais la famille est très très présente. Vous racontez une enfance où vous allez beaucoup voyager, hein, l'Argentine où vous êtes né, la France, la campagne française, c'est-à-dire vraiment le terroir, mais aussi la Guadeloupe, et tout ça à partir d'une envie de dire que cette cruauté que vous avez vis-à-vis des animaux, c'est aussi, ou du moins vous questionnez ce principe, c'est aussi une initiation à la vie.
Tout à fait. À travers ce prisme, on peut en prendre d'autres, hein, évidemment, à travers ce prisme des animaux qui ne s'expriment pas, et qui sont des animaux de compagnie ou des animaux de ferme, je crois que je ne représente que quelques bêtes réellement sauvages, qui sont des baleines, des lamas, quelques animaux de la forêt, mais je parle surtout des rapports humains de proximité avec les animaux. Et
donc les animaux domestiques et les animaux de la ferme.
Oui, 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 absolument. Et je me suis rendu compte par l'expérience que ces animaux maltraités dans ma petite enfance l'étaient d'abord par curiosité. Questionner des rapports de vie, de mort, comment meurt un animal, comment va-t-il naître, que font les animaux de leurs petits, ils les élèvent, ils les mangent, que dois-je donc penser de mes parents. Je commence par ces questionnements qui, je pense, ont traversé tous les enfants qui ont été en lien petit avec des animaux, mais ce questionnement va prendre une autre forme à mesure que je grandis. Mais tout d'abord, c'est une démarche autobiographique qui arrive à un moment de maturité, je pense, personnelle. Et puis, de façon plus incarnée actuellement, plus contemporaine, la question de l'animal et du rapport à l'animal, il me semble, doit être non pas questionné, mais réellement remise en cause. Pas uniquement questionné, hein, voilà. On l'a vu avec les rapports récents qui ont été faits sur les abattoirs. Voilà, c'est une... Il me semble, hein, éthiquement, on ne peut plus fermer les yeux là-dessus.
Alors, on a l'impression, on va vous entendre, que dans ce livre cruel, toutes ces réflexions nourrissent le récit, mais pas du tout. Ce sont juste des aventures de vous, petite, de la petite enfance jusqu'à l'entrée de l'adolescence, vis-à-vis des animaux, tout ce que vous avez pu leur faire, tout ce qu'ils vous ont aussi appris sur le côté prédateur chez l'homme, sur comment un enfant va revendiquer un aspect violent dans la nature, et surtout sur le rapport de force qu'il y a entre les humains et les animaux, mais déjà entre les animaux et entre les humains aussi.
Oui, tout à fait. Alors, petite, déjà oui, je reprends dans ce livre des anecdotes autobiographiques, et donc je ne parle pas de questions contemporaines. Après, les questions contemporaines, elles sont en sous-texte, elles sont présentes malgré elles. À travers ces souvenirs, je parle évidemment de rapports humains en réalité, de rapports humains et de rapports de tensions humaines, des rapports de hiérarchie et des rapports de territoire qu'on retrouve, bon, chez les animaux, mais dans la famille surtout. Vous parliez de la famille. En tant que petite fille, cette hiérarchie, je la ressentais très fortement, puisque mes parents étaient plutôt issus d'une éducation traditionnelle, avec une famille très hiérarchisée, un ordre très, très hiérarchisé, et cet ordre-là était totalement insupportable. C'est comme avoir un patron, c'est très très compliqué à vivre, recevoir des ordres, obéir. Et puis, en tant que petite fille, accepter d'avoir une place que je ne souhaitais pas. La place de la femme, non pas que être une femme, c'est pas bien, c'est pas ce que j'ai dit, mais être une femme dans un contexte aussi hiérarchisé ne me convenait guère, et je rejouais d'une certaine façon des rapports de force avec des petits animaux. C'était ma seule façon momentanément d'avoir du pouvoir sur quelqu'un.
Et de tester tous les degrés de souffrance, de pouvoir, dans des scènes explicites. Mais pour raconter tout ça, vous passez par un trait qui n'est pas du tout réaliste, comme si vous vouliez faire une fable des choses de la vie, ou du spectacle de la vie, pour reprendre une expression que votre mère vous rappelle, pour vous dire à quel point vous étiez très proche de la nature. C'est-à-dire, et en plus, c'est tout à fait sincère et innocent de sa part quand elle vous dit ça.
Oui, absolument. Ce spectacle de la vie, ma mère m'en parle régulièrement au téléphone, et elle me dit, mais quand vous étiez petite, vous étiez fascinée par le spectacle de la vie, qui n'est pas forcément que le spectacle de la mort ou de la cruauté envers les animaux, mais ce spectacle animal nous renvoyait sur des questions, en tout cas me renvoyait sur des questions humaines, de voir par exemple des petits animaux de compagnie pour lesquels on était censé avoir de l'amour, qui étaient censés être des parents. Donc là, je parle par exemple des lapins, qui dévoraient leurs petits à peine nés. Ma mère arrivait comme ça vers nous et nous disait, mais c'est la vie. Et je ne pouvais que fantasmer, avoir des images extrêmement angoissantes de mes propres parents, et renverser ce spectacle de la vie animale sur des questions familiales. De quelle manière mes parents me dévorent-ils?
Voilà. Merci Florence Dupré-Latour. Je rappelle, Cruel, c'est édité chez Dargaud. Premier volume d'un triptyque autobiographique annoncé. Et c'est la fin d'émission. C'est à vous de faire le générique de fin.
C'était Un autre jour est possible, une émission de Toufi Kakem, préparée par Anaïs Hibert et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre.
Émission à retrouver sur franceculture.fr, et à la page de l'émission, vous aurez un dessin spécialement fait pour nous par Florence Dupré-Latour. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Passez un excellent week-end, on se retrouve lundi.